Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. C'est toujours agréable vraiment d'entendre le témoignage de gens qui vont se faire baptiser. Merci Andréane, un très beau témoignage. Toujours agréable de voir le cheminement que les gens prennent et comment Dieu orchestre des rencontres. C'est des rendez-vous divins. Comment Dieu permet qu'il y ait des gens qui se présentent devant nous et nous parlent de Jésus-Christ. Moi, c'était un de mes clients. J'étais en affaires ici, dans le couvre-plancher. J'avais un territoire de l'ouest de Montréal. J'avais l'Outaouais aussi, que je venais régulièrement ici. Et c'est un de mes clients qui m'a invité à dîner une journée, puis il a commencé à me dire qu'il m'a partagé l'Évangile. Ça faisait une couple de mois que lui et son épouse avaient donné leur vie à Jésus, avaient mis leur foi dans Jésus-Christ. Et il voulait me partager ça. Moi, je pensais d'avoir une commande de couvre-plancher. C'est pour ça que je suis allé. Mais ça, j'ai été vraiment surpris qu'il commençait à me parler de Jésus-Christ. Et ça a vraiment été un point tournant dans ma vie, dans la vie de ma relation de couple aussi, parce qu'à ce moment-là, Lise et moi, Lise avait une carrière dans la chanson, en télévision, et puis elle s'en allait là, et puis on se séparait, et ça allait pas très bien. Et ça faisait plusieurs fois qu'on se laissait. Et c'est drôle comment Jésus-Christ a vraiment fait un changement au niveau du couple. Un revirement total au niveau du couple, au point qu'on s'est mariés, imaginez, 6 mois après. Tu nous aurais regardé, puis tout de suite, t'aurais dit, jamais ces deux-là sont faits pour être ensemble, ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, l'ami de ma fille a dit, qu'est-ce que tu fais avec un gars de même? Ça allait vraiment pas bien, mon affaire. Mais pourtant, après, ça fait quand même quelques années, et c'est vraiment Dieu qui a opéré ces changements-là, et plusieurs ici, vous avez ces témoignages-là, comment Dieu est intervenu dans votre vie, a fait vraiment un grand revirement. Et gloire à lui, gloire à Dieu pour toutes ces belles choses qu'on entend ici et là. Dieu veut faire, Dieu vous aime premièrement, Dieu vous aime et il a un plan pour vous, pour chacun d'entre nous. Et c'est un fait, on le sait, on le voit par plusieurs personnes qui sont venues à lui, comment leur vie a été transformée par la puissance vraiment du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Vous savez, on a été créé à l'image de Dieu. Donc, on a été créé pour une place dans notre cœur que seul lui peut occuper. Alors, il y a des gens qui ont tout dans la vie, qui vont avoir le succès, l'argent, la gloire et tout ça, et eux-mêmes vous diront qu'il manque quelque chose encore dans leur cœur, dans leur vie, un petit vide qui est là. Et assurément, parce que nous découvrons en lisant la Bible que nous avons été faits, créés à l'image de Dieu. On a été faits pour adorer Dieu. On a été faits pour se donner à Dieu et chercher la gloire de Dieu. Et c'est ça qui manque, c'est Dieu dans ta vie. Et on a justement le témoignage d'un homme qui s'est fait baptiser. Il y a eu plusieurs baptêmes. On voit plusieurs baptêmes dans les Écritures, dans la Bible. On voit le témoignage d'un homme qui se convertit à Jésus-Christ. C'est un Africain, un Éthiopien. Il venait de très loin. Alors, c'est un croyant qui ne connaissait pas Jésus. Il croyait en Dieu. C'est un homme définitivement un pratiquant parce qu'il a fait des centaines et des centaines de kilomètres pour se rendre à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais il ne connaissait pas Jésus. Et on va voir son histoire. On voit cela dans Acte 8. D'ailleurs, on a un Africain dans Acte 8 qui vient à Jésus. Dans Acte 9, nous voyons un Juif qui vient à Jésus. C'est pas peu dire qu'un Juif vraiment place sa foi en Jésus-Christ. Et dans le chapitre suivant, c'est un Européen qui vient à Jésus. Si bien qu'en l'espace de 6 mois, plus de 70 000 personnes se sont converties à Jésus-Christ lors de la naissance de l'Église. Et ça continue. On raconte que maintenant, il y a à peu près 3 000 personnes qui viennent à Jésus à toutes les heures, 24 heures sur 24, à travers le monde entier. C'est phénoménal et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais j'aimerais emprunter ce passage et pour ceux qui ont leur Bible, qui aimeraient suivre avec moi, vous avez le témoignage, un peu comme Adrien a fait tantôt, on a entendu son témoignage. Eh bien, on a le récit de cette rencontre, comment cet homme-là a fait la connaissance de Jésus et comment c'est arrivé. Et ça se trouve dans Actes chapitre 8, verset 26. Et on voit en premier que c'est une œuvre de Dieu, parce que c'est Dieu qui envoie un ange poussé, incité, qui va dire à Philippe, qui était déjà un croyant en Jésus-Christ, un disciple. Disciple veut simplement dire quelqu'un qui suit Jésus. Et d'aller voir cet homme-là qui était dans un char et qui sortait de Jérusalem pour s'en retourner chez lui. Et on croit que c'est au Soudan. l'Éthiopie, mais qui n'était pas la même chose, le même endroit qu'à cette époque. Donc, on croit que c'est plus le Soudan. Donc, dans Actes 8, verset 26, laissez-moi vous lire cette histoire, cette rencontre, ce rendez-vous divin, en fait. C'est définitivement un rendez-vous divin, parce que c'est comme si Dieu ouvre le rideau et nous laisse entrevoir ce qu'il a fait pour emmener la bonne nouvelle de Jésus à cet homme-là. Alors, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, qui veut simplement dire, c'est le même mot qu'un ministre des Finances, alors il était un très haut placé dans ce pays, et un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance, approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe, et il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Et l'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? » Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, excusez-moi, dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération qui en parlera. En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? » Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et en parlant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route, tout joyeux. J'aimerais m'arrêter là-dessus vraiment. Il poursuivit sa route, tout joyeux. Et Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Eh bien, voici cet homme, cet Éthiopien, qui est une personne qui est très réfléchie, une personne qui est intelligente, brillante. Elle a du succès dans sa vie. Il a du succès dans sa vie. Il est ministre des finances de son pays, très à l'aise financièrement. On le sait par différentes observations. Tout d'abord, comment on l'appelle. Il est dans la cour royale. Non seulement ça, il a un rouleau, le rouleau d'Ésaïe, qui coûtait très cher, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, c'était des copistes et c'était très long. Il n'y avait pas des imprimeries comme aujourd'hui. Donc, c'était vraiment écrit à la main. On embauchait des gens à temps plein qui écrivaient, et ça prenait des heures, des semaines et des semaines à écrire des rouleaux. Et donc, on sait que c'est une personne qui est très à l'aise financièrement. Donc, il a tout, comme on pourrait dire aujourd'hui, il a tout pour être heureux. Il a le succès, il a l'argent, la gloire, il est dans la cour royale. Dans le fond, il ne pourrait pas aller plus haut que ça dans sa carrière, parce qu'après ça, tu tombes roi ou reine. Donc, il est très haut placé. Et pourtant, on va voir cet homme qui sera très humble, va même demander de l'aide à Philippe pour comprendre les Écritures. Et ça commence... Le passage, cette histoire commence en nous dévoilant ce qu'on ne voit pas. C'est Dieu lui-même qui donne qui envoie son ange parler à Philippe pour aller retrouver cet homme-là qui était dans un char tiré par un âne, fort probablement, et qui était en train de lire. C'est sûr que c'était pas, on parle pas d'une Mercedes, une voiture sport qui allait vite, ça devait pas aller très vite, ça devait être très lentement. Et c'était un long voyage, très long. On parle de centaines et des centaines. C'est à peu près l'équivalent de Montréal, d'Ottawa ou de Gatineau à Floride. Donc, on parle de très loin. Donc, long voyage. Il a fait tout ce voyage pour se rendre à Jérusalem, pour adorer Dieu. Et là, Dieu le voit et Dieu envoie vraiment son ange dire à Philippe d'aller retrouver cet homme pour lui parler de Jésus-Christ. C'est vraiment intéressant parce que ce qu'on sait, c'est un homme pratiquant. Il fait des centaines et des centaines de kilomètres pour aller adorer Dieu, aller puis revenir. Donc, c'est une personne qui croit en Dieu, c'est une personne pratiquante. Et pourtant, Dieu envoie un ange dire à Philippe d'aller le retrouver pour lui parler de Jésus. En d'autres mots, comme on voit ici, être croyant et être pratiquant ne suffit pas pour avoir une relation avec Dieu. Vois-tu, c'est pas juste parce que tu crois en Dieu. Voici un homme très croyant, très pratiquant, qui s'en va adorer à Jérusalem, de où il demeure. Alors, mais Dieu lui dit, il lui manque quelque chose. Et c'est quoi qui lui manque? C'est Jésus. Vois-tu, tu peux croire en Dieu, et c'est très évident ici, tu peux croire en Dieu, mais c'est pas assez. Ça te prend Jésus. Et Jésus lui l'a dit clairement de son vivant au cours de son ministère. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le chemin. Et on le voit ici avec une personne très pratiquante. On ne parle pas d'un bandit, d'un criminel. On parle de quelqu'un qui était religieux. Et pourtant, Dieu le voit et dit, « Il lui manque Jésus. » Et ça, c'est très important. C'est la clé, vraiment. Et voici Dieu qui fait cette œuvre, qui est en train d'aller toucher Dieu, qui a une compassion des âmes, qui connaît le cœur de cet homme. Il sait qu'il a besoin de Jésus parce que le Seigneur nous connaît et il sait qu'on a besoin d'une relation avec lui. Et cette relation se construit sur Jésus-Christ. Alors, voici Dieu qui fait son œuvre, qui est en train vraiment de faire grandir son Église. C'est Dieu qui répand cette bonne nouvelle un peu partout, et on va le voir se répandre à travers le livre des Actes. C'est une œuvre de Dieu, c'est un rendez-vous divin. Et Jésus l'avait dit à ses disciples, il a dit, « Moi, je vais construire, je vais bâtir mon Église. » Et si tu es ici ce matin, ce n'est pas par hasard, c'est le hasard de Dieu. C'est Dieu qui orchestre ses rendez-vous surnaturels à travers une vie qui nous permet d'être exposés à son magnifique message, le message de Jésus. Ce sont des rendez-vous divins. Comme moi, lorsqu'un jour, j'ai rencontré un de mes clients qui me parlait de Jésus-Christ. Et ça a été le début d'une belle aventure avec Jésus-Christ. Ma femme aussi, qui est venue à Jésus, cette même fin de semaine-là. Et c'est le témoignage de plusieurs personnes ici. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu qui répand vraiment son évangile qui répand cette bonne nouvelle à travers le monde entier. D'ailleurs, même encore, on voit comment l'évangile se répand à travers le monde. Par exemple, juste en 1900, on parle ici de l'Éthiopien. On ne sait pas si c'est le premier Éthiopien à venir à Jésus-Christ. Peut-être que dans Acte 2, il y a 3000 personnes qui se convertissent à Acte 2. Peut-être que, effectivement, il y avait des Africains qui étaient là, mais chose certaine, il est dans les premiers. Et on voit son histoire ici, comment lui vient à Jésus-Christ. Dieu qui a à cœur des gens à travers le monde. Et il a dit, emmenez l'Évangile à travers le monde, aux extrémités de la terre. C'est la volonté de Dieu que l'Évangile se répande à travers le monde entier. Et voici cet homme. C'est vraiment fascinant de voir comment l'Évangile se répand encore aujourd'hui. Écoutez, en 1900, il y avait environ 9 millions de chrétiens en Afrique, soit 9% de la population. En l'espace de 100 ans, soit en 2000, on parle de 300 quelques millions, 50% des Africains. Et on pense que d'ici 10 ans ou 15 ans, ce sera le 2/3 des Africains. Merci beaucoup, tu es bien gentil, Dominique. Je vais boire parce que sinon ma femme ne sera pas contente. Elle n'est pas fière de moi quand je fais ça, les bruits d'en avant, puis essaie de... J'arrive à la maison, puis... Il me dit, pourquoi tu n'as pas pris un verre d'eau? Il y a un verre d'eau en avant. Bon, OK. Vous effacerez ça. Elle est gentille, ma femme. Je l'aime beaucoup. Elle est bien gentille. Là, je viens de donner une mauvaise... Excuse-moi, chérie. Ça a mal sorti. Ça. Et là, je me suis mis... Ça va me coûter un dîner au restaurant. Oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a des gens qui viennent à Jésus-Christ. C'est magnifique de voir ça. D'ici un an à une heure et demie, juste le temps qu'on a notre rencontre ce matin, là, il y a à peu près 1250 Africains qui viendront à Jésus-Christ. Vous savez, il y a 30 000 Chinois qui viennent au Seigneur à tous les jours. 20 000 Africains à tous les jours. 10 000 en Amérique latine à tous les jours. C'est incroyable. C'est phénoménal à travers le monde entier. Donc, l'Évangile, c'est vivant, ça se répand parce que c'est l'œuvre de Dieu. Jésus l'a dit, je vais construire, je vais bâtir mon Église. Et il y a une raison pour ça. Alors, regardez bien ce qui se passe ici avec l'Éthiopien. Il est en train de lire dans Ésaïe. Ésaïe, ça part de quoi? Et là, Dieu dit à Philippe d'aller retrouver le char. Et là, Philippe part à courir, fait du jogging, va se rendre jusqu'au char, qui n'allait pas trop vite, va le retrouver. Il entend justement cet Éthiopien qui est en train de lire à haute voix. C'est ça qu'on faisait dans l'Antiquité, on lisait à haute voix. Et puis voici, il est en train de lire Ésaïe. Il entend la parole et ça vient d'Ésaïe 53. Heureusement, nous avons l'Ésaïe 53 dans la Bible. C'est un passage de l'Ancien Testament et qui parle de cette prophétie qu'un jour, un sauveur allait venir. Et c'est Jésus-Christ. Et qui allait s'offrir sur la croix, mourir pour nos péchés. Parce que voyez-vous, nous nous sommes détournés de Dieu. La raison pour laquelle nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est pour adorer Dieu. Mais on s'est détourné de Dieu, on l'a tassé de notre vie. Et à cause, ça, c'est ce que la Bible appelle péché. Mais péché, c'est manquer la cible, littéralement, c'est ça que ça veut dire. On a manqué le but pour lequel on a été créés. On pense que c'est un gros mot religieux, le mot péché, mais c'est ça que ça veut dire, simplement. On a manqué le but, notre raison d'être, ce pourquoi nous avons été créés. C'était premièrement, d'abord et avant tout, la gloire de Dieu. On a manqué la cible. Dans ce sens, nous avons péché. Et à cause de ça, on a créé un mur entre nous et Dieu, nous dit Romains chapitre 3. Nous sommes séparés d'avec Dieu. Et le seul moyen de réparer cela, d'être réconcilié avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, c'est en plaçant notre foi sur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a aucune œuvre que l'on peut faire, aucune bonne œuvre, pas assez de bonnes œuvres pour nous racheter aux yeux de Dieu et de changer ce cœur qui est là, qui se rebelle contre Dieu. Mais c'est pour ça que Jésus est allé à la croix. Donc, si c'est une bonne nouvelle, c'est parce qu'à quelque part, il y avait une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle, c'est justement nous avons péché, nous sommes privés de la présence de Dieu. Et la Bible dit que nous allons être perdus éternellement. Et c'est différentes expressions dans le Nouveau Testament. Ça parle du jugement dernier, ça parle de l'enfer. Mais c'est d'être exclu de la présence de Dieu pour l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est allé à la croix pour rétablir cette relation-là que nous avons. Il a pris nos péchés qui ont été transférés sur ses épaules. Il a pris sur lui. Imaginez ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ce que Philippe est en train d'exposer et d'expliquer dans le char avec cet Éthiopien. En parlant d'Ésaïe, parce qu'Ésaïe prédit cette venue de celui qui allait se rendre à la croix et prendre nos péchés. Et tranquillement, en découvrant, en comprenant ce magnifique message, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, là dans le char, cet Éthiopien se convertit et dit oui à Jésus. Et c'est ce que j'espère, que vous ne quitterez pas ce lieu sans dire oui à Jésus. Oui, peut-être que vous aurez des questions, vous aurez sûrement des questions. Mais faites le premier pas de foi, comme bien des gens ici ont fait. Et on commence cette relation avec Dieu. On devient enfant de Dieu. Eh bien, ça signifie quoi ça? C'est quoi cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est justement que Jésus-Christ est allé à la croix pour prendre tes péchés. Et ça veut dire quoi si tu places ta foi en lui? Mais premièrement, ça veut dire que tu es une nouvelle création. C'est ce que dit un passage dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Imaginez, tu as pu traîner la culpabilité, c'est réglé à la croix. Tous les péchés que tu as commis dans le passé et ceux que tu vas commettre dans l'avenir sont pardonnés et ont été déposés à la croix. On peut dire dans un sens que Jésus est allé à la croix il y a 2000 ans, il a réglé les péchés qui viendraient. Et il a réglé les péchés du passé dans l'Ancien Testament. Alors, les péchés que tu as commis jusqu'ici, c'est réglé à la croix. Alors, quand tu viens à Jésus-Christ, c'est comme une page blanche. Tout est pardonné, quel que soit ton passé. Alors, être en Jésus signifie que tu es une nouvelle créature. Être en Jésus signifie aussi que tu vas commencer une nouvelle relation avec Dieu. Tu es maintenant justifié auprès de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21 dit... Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Troisièmement, être en Jésus signifie que Dieu va commencer une relation avec toi et va commencer à opérer des changements en toi pour que tu deviennes de plus en plus à l'image de son Fils Jésus-Christ. Il va opérer des changements et ça continue constamment. Être en Jésus signifie aussi que nous sommes maintenant spirituellement riches. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es adopté. Dès l'instant que tu dis oui à Jésus, tu es adopté dans sa famille. Dieu t'adopte. Il t'emmène dans sa famille. Tu deviens son enfant. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, et c'est ce que dit Éphésiens 1, 5. On a été adopté. Tu reçois son salut, la vie éternelle, le pardon de tes péchés. Tu as une relation maintenant avec Dieu pour l'éternité. Tu deviens aussi héritier parce que, mais la vie la plus belle que tu pourrais imaginer ici, ça, c'est rien à comparer de ce qui s'en vient de l'autre côté dans l'éternité, passer près de Jésus, dans l'éternité. Dieu dit, ça dit dans sa parole que Dieu nous prépare tout un héritage qui est magnifique. Il n'y aura plus de larmes, plus de douleurs, plus de tristesse. Plus de souffrance, on va rentrer dans la gloire, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est les richesses spirituelles. Imaginez, tu as aussi le Saint-Esprit qui est en toi, qui t'accompagne maintenant chaque jour. Alors, on voit la suite de l'histoire dans Acte 8 qui dit ceci. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivent à un point d'eau. L'eunuque qui dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe, à ce moment-là, dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répond. Il répond. Lui qui ne connaissait pas Jésus, il répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En d'autres mots, voici cet homme qui place sa foi en Jésus-Christ. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendent, et tous les deux entrent dans l'eau et ils baptisent l'eunuque. Pourquoi? Parce que le baptême représente finalement, au niveau, du point de vue extérieur, il représente ce qui s'est passé en dedans lorsque tu as dit oui à Jésus. Vois-tu, et ce que ça représente, c'est que lorsqu'on te baptise par immersion, tout à fait en dessous de l'eau, c'est ton ancienne vie, ce passage qu'on a justement évoqué tantôt dans Corinthiens. Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et vois-tu, tu es comme enterré, ton ancienne vie est enterrée en Jésus. Et lorsque tu sors, c'est comme ça représente cette nouvelle vie qui commence avec Jésus-Christ. Je pense qu'un beau passage qui le dit, c'est justement Galates qui parle de cela, qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Alors, c'est comme si tu mourais en Jésus-Christ et tu ressuscites avec Jésus-Christ. Ça s'est déjà passé dans ton cœur le moment où tu as dit oui à Jésus-Christ. Et c'est ce qui se produit lorsque tu te fais baptiser. C'est pour ça que c'est une grande joie pour tous les enfants de Dieu lorsque quelqu'un se fait baptiser. On se réjouit de ça. On célèbre, c'est une célébration de cette union avec Jésus-Christ. Un baptême, c'est ça, c'est une célébration. Quelqu'un qui s'est uni à Jésus-Christ, comment Dieu a fait ce miracle dans son cœur. Et qu'est-ce qui se passe? On voit l'Éthiopien qui change du tout au tout. Il dit, c'est pas qu'il devient parfait. Non, au contraire, on est conscient de notre péché et on veut s'améliorer avec l'aide de Dieu. Mais il y a une joie qui est indescriptible. Jésus a dit, je vais vous donner ma joie parfaite. Et il y a une joie qui est là lorsque tu viens à Jésus. Et on le voit chez l'Éthiopien, il dit au verset 39, « Quand ils furent sortis de l'eau, alors les deux entrent dans l'eau, lui se fait baptiser, et Philippe est envoyé ailleurs, et l'eunuque ne le voit plus, il ne le vit plus, puis il dit, il poursuivit sa route tout joyeux. » Amen. Hein? Quand tu viens au Seigneur Jésus, c'est ça qui se passe. Tu découvres, tes yeux s'ouvrent tout d'un coup, à voir la beauté de Jésus, la beauté de l'Évangile. J'aimerais vous inviter, peut-être que quelques-uns ici aimeraient dire oui à Jésus-Christ ce matin, j'aimerais vous inviter à fermer vos yeux, à vous courber. On va prier pour vous donner cette occasion-là de vraiment ouvrir votre cœur à Jésus. Eh bien, Seigneur notre Dieu, Tout d'abord, on aimerait te remercier pour ce que tu as fait dans la vie déjà d'Andréane. On se réjouit, Seigneur, pour cette œuvre. Chaque conversion est un miracle. Donc, on se réjouit de cette œuvre dans sa vie, Seigneur. On veut te louer. Comment tu t'es servi de Matthieu et comment l'Évangile a été exposé. Et sa décision aujourd'hui de rendre témoignage publiquement de sa foi en Jésus. Et Seigneur, il y a peut-être des gens ici ce matin qui sont ici, qui n'ont pas pris cette décision encore dans leur vie. Un peu comme l'eunuque, ce ministre qui ce jour-là a entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus, a ouvert son cœur. Seigneur, peut-être qu'il y a des gens ici que tu appelles en ce moment, que tu es en train d'appeler à se repentir et à se convertir à Jésus. Seigneur, touche leur cœur, qu'ils puissent laisser tomber toutes leurs défenses et embrasser Jésus, venir à Jésus, qu'ils viennent à Jésus, comme un jour tu as fait dans ma propre vie, Seigneur. Et combien ça a été un changement incroyable. Oh Seigneur, on te prie pour chaque personne ici ce matin, que personne ne sort d'ici sans dire oui à Jésus. Si vous avez la tête courbée, les yeux fermés, que vous voulez dire oui à Jésus, vous pouvez dans votre cœur répéter cette prière. Seigneur Jésus, je vois à quel point tu m'aimes. Je vois que tu es allé, tu as envoyé ton Fils unique à la croix pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je t'ai tassé de ma vie, Seigneur. Je te demande pardon. Je demande à Jésus de vraiment entrer dans ma vie. Je place ma foi en Jésus ce matin. Merci pour la vie éternelle. Je te prie que maintenant, Seigneur, je puisse chercher à mener ma vie dans le but de te plaire, avec ton aide. Je ne suis pas parfait, tu le sais, je suis humain, pécheur. J'ai besoin de ton aide. Et merci parce que Jésus est allé à la croix pour mes propres péchés. Tu m'as tant aimé que tu as envoyé ton Fils unique. Afin que si je crois en lui, je ne périsse point, mais j'ai la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle en Jésus. Et pour nous qui avons quelques années en toi, Seigneur, nous aussi, nous avons besoin de nous reconsacrer. Et nous te demandons, Seigneur, ce matin, que tu puisses prendre nos vies à nouveau. Nous voulons te céder nos vies, Seigneur. Nous voulons te plaire. Nous voulons chercher à te plaire. Parce que tu as tant fait pour nous, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour la puissance du Saint-Esprit. Merci que l'Évangile se répand jusqu'à Gatineau. On pense à l'Évangile qui a passé à travers la Chine, l'Afrique, l'Amérique latine, Jérusalem, à travers le monde et maintenant, ici même, Seigneur, dans la belle région d'Outaouais, dans la belle région, dans la belle province du Québec. On te prie que d'autres viennent à toi, Seigneur. Ta gloire, au nom de Jésus, nous te prions. Amen.